Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible. Dans l'évangile de Matthieu, si vous voulez bien suivre avec moi, nous allons faire une lecture qui nous dit beaucoup de choses, qui nous prépare à une réflexion sur ce que nous sommes, les choix que nous pouvons faire, et puis, c'est vrai, bien tout cela, ce sont des paroles qui ont un sens profond hier comme aujourd'hui, lorsque Jésus les a données, eh bien, ça s'adressait naturellement, eh bien, en priorité à son peuple, les Juifs. Et tout cela, eh bien, a survécu avec le temps, puisque plus de 2000 ans après, les paroles de Jésus restent les mêmes pour les hommes que nous sommes aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société. Les mêmes préoccupations, les mêmes questions, les mêmes interrogations, les mêmes réponses aussi. Alors, je vous ai dit Matthieu, mais je vous ai pas donné la situation. Chapitre 7. Et le verset 21, c'est une parole qui est très connue, mais je pense qu'il est bon, pour les uns et pour les autres, peut-être pour ceux aussi qui découvrent le message de l'Évangile, et bien de revenir à ses fondamentaux, on peut dire cela comme ça si vous me le permettez. Ce sont des choses essentielles qui déterminent finalement notre salut, la bénédiction de Dieu, en un mot notre bonheur présent, et celui que nous attendons, le bonheur à venir, l'éternel. Voilà. Alors, je lis ces paroles. Jésus dit donc, ceux qui me disent, et il y a beaucoup de gens qui disent quelque chose au Seigneur, et dire au Seigneur, ça s'appelle prier. Voilà. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui ou celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et puis il y a la concrétisation de ce qui vient d'être annoncé, de ce qui vient d'être lu. Jésus dira, c'est pourquoi, en conséquence de quoi, ce que nous venons de lire, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre elle, contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, de sa parole, car Jésus enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes, comme leurs prêtres et tous ces gens de la religion d'Israël. Nous avons, à travers ces deux paragraphes, puisque vous avez remarqué, ils sont séparés, mais une continuité de ce qui est dit précédemment aussi dans le Sermon sur la montagne. Il est question finalement de ceux que Jésus dénoncera comme des faux prophètes, comme des faux chrétiens, on pourrait dire aujourd'hui, comme des faux croyants, comme des gens qui s'approprient avec une autorité qu'ils mettent sur le compte de Dieu et au nom de Dieu, une autorité qu'ils n'ont pas, une autorité donc usurpée, et ils se donnent pour cela, eh bien, finalement, un pouvoir, une puissance, une capacité, en empruntant pour certainement confondre la crédulité des gens simples, de dire, eh bien voilà, moi je suis ceci, je fais cela. Et Jésus leur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il y a quand même une différence, parce que Jésus en parle, mais je ne veux pas commenter ce texte, parce que ce n'est pas notre propos. Mais il dira, il y a quand même une différence entre les loups et les brebis. Eh, parce que toutes les deux ont des dents. Vous avez remarqué? Mais il y a une chose. C'est que les dents d'une brebis et les dents d'un loup, c'est pas la même chose, hein. La brebis mange de l'herbe, mais le loup, il mange la brebis. Et Jésus les comparera en les dénonçant, en disant, mais attendez, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups. Méfiez-vous, prenez garde. Puis Jésus tirera la petite conclusion, on les reconnaîtra leurs fruits. Vous savez, il y a une chose que Jésus nous enseigne, et puis que les autres, dans la Bible, je pense dans le Nouveau Testament, il dira, mais de toute façon, un fruit, si vous avez affaire à un pommier, par exemple, vous avez très peu de chances de voir des bananes pousser dessus. Excusez-moi l'expression, mais parce qu'un pommier, c'est un pommier, il donne des pommes, et le bananier, il donne des bananes. Voilà. Donc, chaque fruit, chaque arbre, a son correspondant de fruits, c'est normal, hein. Eh bien, le cœur humain, figurez-vous, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont un cœur très mauvais, méchant, profiteur, égoïste, tout ce que vous voudrez, et à l'extérieur, ils ont une belle attitude. Ça ne se voit pas. Et c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est pas à leur bagout, c'est pas à leur discours, c'est pas, excusez-moi l'expression, mais à leur baratin, ou à tout ce qu'ils peuvent dire, c'est à leurs fruits. Et Jésus nous le dira d'une manière tout à fait particulière quand il s'agira des jugements, c'est-à-dire de... Parce que nous sommes appelés à juger ce qui est bien, et à juger aussi ce qui est mal, et après faire le choix. Et Jésus dira, mais ne vous fiez pas aux apparences, mais jugez selon la vérité. Or, le gros problème, dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve la vérité. On est dans un tumulte aujourd'hui, tant sur le plan politique, et je ne peux pas vous raconter, hein. Vous savez, sur le plan du mécontentement d'une manière ou d'une autre, où chacun essaie de tirer à lui-même, et puis, quand on voit par exemple sur le plan commercial, hein, ce que peut faire le marketing, vous savez ce que c'est que le marketing? C'est quand on vous dérange en plein midi pour vous vendre quelque chose. Ah ça, c'est quelque chose qui me... Ça, je peux vous dire que je suis peut-être un agneau, mais là, je supporte pas. Enfin bon, j'arrête. Mais c'est pour vous dire que on est dans un monde comme ça, et on vous vante monts et merveilles, et puis attention, d'ailleurs, ceux qui... Les pouvoirs publics nous préviennent en disant, attendez, hein, faites attention, parce que il y a tellement de choses, d'escroqueries, de voleurs, de menteurs, etc., etc. Alors, on va arriver à notre lecture maintenant, parce que c'est ça ce qui est important. Voilà Jésus qui dit, il appelle les gens autour de lui, il dit, mais vous savez, moi je voudrais vous dire quelque chose. Ce sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le mot du Seigneur dans la bouche. Le nom de Dieu dans la bouche, même pour jurer. Et là, c'est dans une autre orientation, hein. Qui, quelque part, se réclament finalement de Dieu dans leur vie, mais qui ne croient pas en Dieu, qui se servent peut-être du nom de Dieu, qui se servent un peu peut-être de certaines choses qu'ils ont apprises, qu'ils croient connaître, mais qu'ils ne connaissent pas, parce que s'ils le connaissaient réellement, ils ne pourraient pas être ce qu'ils sont. Et Jésus dit donc, ceux qui me disent, mais Seigneur, Seigneur, les gens qui ont le Seigneur à la bouche, comme ça, continuellement. Et Jésus prévient, il y en a des, hein. Ne vous faites pas d'illusions, c'est pas parce que vous avez des paroles, non, nous allons nous en tenir qu'aux paroles, de dire voilà ceci et cela, parce qu'il y a toujours une belle présentation, mais qui n'est pas forcément la réalité de l'identité et de la qualité finalement intérieure de la personne. Alors Jésus dit tout de suite, il dit, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est clair, net et précis. Et il faut choisir, si véritablement nous avons une ambition d'aimer la vérité, ce qui est juste, le caractère même de ce que Jésus est venu faire la démonstration en vivant parmi les hommes il y a 2000 ans, et dont il nous a laissé une parole extraordinaire que l'on appelle l'évangile, alors à ce moment-là, si nous aspirons à ces choses, à ce qui est juste, à ce qui est bien, eh bien à ce moment-là, eh bien nous allons changer certainement d'attitude et nous allons nous prêter aux oreilles, nous prêter nos oreilles à ce que nous dit Jésus d'une manière attentive. Et il poursuit, « Mais il y a seulement ceux, et on va le mettre au féminin, celles, qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Qu'est-ce que c'est que la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Jésus nous le montrera dans le Notre Père, il dira cette parole extraordinaire que beaucoup disent « Seigneur, Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, parce que la volonté de Dieu, et vous l'avez souvent entendu dire, je l'ai dit souvent, la volonté de Dieu dans le ciel, elle est parfaite, elle est propre, elle est nette, elle est sainte, elle est juste, mais sur la terre, c'est peut-être autre chose. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent le nom de Dieu, mais qui n'ont rien à faire, si finalement, eh bien, sur la terre, ce n'est que de l'injustice, du mensonge, des tromperies, des querelles, des haines, etc., etc. Et pourtant, ils le disent. Combien de gens citent le Notre Père? Alors, je parle des croyants, enfin, dans le monde et dans la culture chrétienne, mais qui, quelque part, ne font pas attention à la relation qu'il peut y avoir entre la prière qu'ils font monter vers Dieu et l'attitude qu'ils peuvent avoir tous les jours dans leur vie, qui dénoncent, quelque part, que ce sont des gens doubles. Ils ont une façade, et à l'intérieur, ils se moquent bien de la justice, ils se moquent bien de la vérité, pourvu que c'est à leur profit et à leur intérêt. C'est ce que dit Jésus. Et dans le monde religieux, c'est ça, malheureusement. Je suis pas en train de casser, mais je suis en train de constater. C'est qu'être un croyant et religieux, c'est une chose. Être un homme ou une femme nouvelle, c'en est une autre. Ça, c'est une différence considérable, et on voit la différence. Parce que normalement, un chrétien, il ne ment pas. Un chrétien, il n'abuse pas des autres. Un chrétien, il n'a pas de mauvais sentiments, voire de la haine, du ressentiment vis-à-vis de ceci et cela. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est capable de pardonner. C'est pas facile, mais il va y arriver. Parce qu'il ne va pas compter sur lui-même pour y arriver, mais il va compter sur Dieu. Et là, il pourra dire « Seigneur, Seigneur, aide-moi dans ma faiblesse. On m'a fait du mal, mais donne-moi de ne pas me venger. Donne-moi de ne pas avoir des mesures de rétorsion contre celui-ci et celui-là. Donne-moi d'être avant tout quelqu'un qui favorise la paix. » Mais la vraie paix, c'est pas de dire « Je te pardonne, mais tu sais, je t'oublie pas, parce que quand tu es au coin d'un carrefour, je te retrouverai, tu vas passer un sale quart d'heure. » Eh oui, c'est toutes les ambiguïtés et les attitudes de l'âme humaine et des comportements humains. Alors il dit bien « Mais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Si nous voulons faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux, nous les croyants, eh bien, il suffit de lire la Bible. La Bible est la réponse. La Bible est, on pourrait dire, le code de la route pour aller au ciel. La Bible, c'est véritablement le livre par excellence qui a traversé les siècles, qui a traversé les temps, et combien cette Bible a été combattue d'une manière ou d'une autre, jusqu'à provoquer des guerres de religion que nous avons connues dans notre Europe des siècles passés. Parce que des gens étaient attachés, finalement, à croire en Jésus-Christ et à vivre comme Jésus-Christ a vécu. C'est possible encore aujourd'hui, hein. Et d'autres rétorqueront, « Oui, Seigneur, nous te disons, Seigneur, Seigneur. C'est vrai que notre vie, elle est peut-être pas tout à fait au diapason, mais tu vas bien t'en contenter quand même. » Non. Et plusieurs me diront en ce jour-là, « Mais Seigneur, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas prophétisé par ton nom ?» Tu sais, là où nous avons été, dans même notre propre église, oh, nous avons été inspirés, nous avons été saisis de ton esprit, et nous avons dit tes paroles. D'autres ajouteront, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est-à-dire que, bien écoute, par la foi, nous avons saisi tes promesses de délivrance pour ceux qui étaient malheureux, ceux qui étaient captifs dans leur corps, captifs dans leur âme, qui étaient aux prises avec l'angoisse ou l'anxiété, et captifs dans leur esprit. Mais c'est par ton nom que nous l'avons fait. C'est au nom de Jésus-Christ que nous l'avons fait. Quand on lit ça, on se dit, mais c'est bien, naturellement. D'autres ajouteront, mais est-ce que nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regarde, les miracles, ils découlaient de nos doigts. Voilà. Mais il faut bien oublier, il faut jamais oublier que la prophétie, que chasser les démons, si on veut considérer les choses qui sont dites, ou le miracle, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Bien que quelquefois les hommes disent « Dieu m'a donné un don », mais à partir du moment où on dit « Dieu m'a donné un don », ça annule tout le reste. Parce que ça, c'est quelque chose, on met Jésus en avant et pas nous. Et ça, c'est important, hein. Alors Jésus, naturellement, savait que certains rétorqueraient quand ils entendent Jésus leur dire « Mais si vous me dites Seigneur, Seigneur, et que finalement, eh bien, vous ne faites pas la volonté de Dieu. » Et Jésus savait que certains contrecarrer la pensée de Jésus en disant « Mais miracle, on a été des agents de délivrance, et on a été également, eh bien là, des prophètes, eh bien ça doit suffire. Écoutez la réponse. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La sanction, elle est là. Jésus nous l'avait dit précédemment. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et Jésus, à ce pourquoi ne rentreront-ils pas? C'est que finalement, ils ne font pas la volonté de Dieu. Et pour masquer qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, ils vont se barder de pouvoir et de puissance qui va en mettre plein la vue aux autres et qui diront, ben, c'est forcé, il ne peut venir que de Dieu pour faire des choses pareilles. Eh bien non. Le diable est capable d'inspirer des hommes pour prophétiser. Le diable est capable de chasser des mauvais esprits, parce que c'est la même famille, le diable et tout le reste, hein. Il est capable de les chasser en faisant un joli transfert du mal sur une autre personne. Le diable est capable également, eh bien, de faire des miracles. Mais tout ça, les magiciens d'Égypte, du temps de Moïse, ils faisaient la même chose. Et je peux vous dire que Pharaon, il était content de ces magiciens, hein. Comme Nebuchadnezzar, il était content, il a voulu les faire mourir un jour parce qu'ils étaient au bout de leurs possibilités magiques. Donc, vous avez bien compris, ce n'est pas aux œuvres, c'est aux fruits que l'on juge. Parce que les œuvres, elles peuvent masquer des choses terribles. Je prends un exemple historique. Comment se fait-il qu'un homme, vous allez dire que j'en parlais assez souvent, mais on est tout à fait dans la période en ce moment. Comment se fait-il qu'un homme de rien, on pourrait dire vraiment moins que rien, qui s'appelait il y a quelques décennies Adolf Hitler, qui avait lui aussi un don, oh il avait un don, incontestable, de chef, de leader, d'orateur, comment se fait-il qu'un peuple entier se soit mis à genoux devant lui, jusqu'au feu et au sang, à détruire un pays et à détruire pratiquement le monde? Ah, il a prophétisé. Moi, je vais vous le dire qu'il a prophétisé, Hitler. Il avait promis au peuple allemand que le millénium viendrait sous son instigation. 1000 ans de paix, avait-il promis. Ça fait partie de la doctrine allemande, hein. Enfin, des nazis, en tous les cas. Des miracles? Oh, il en a fait, hein. Je peux vous dire qu'il a abasourdi le monde entier quand il a commencé à faire la guerre dans les années 39 et 40. Le monde entier était... Oh, comment avait-il pu, en l'espace de quelques années, remettre une armée alors qu'il était interdit, finalement, aux Allemands d'avoir une armée, hein? Paf! Il y a une chose qu'il a pas fait, c'est chasser les démons de lui-même. Parce que ça, il en avait une sacrée tripotée, excusez-moi, hein. Et ça donnait véritablement une personnalité démoniaque, où aujourd'hui le monde en constate, avec des choses horribles et terribles, les camps de concentration, l'extermination de millions et de millions de personnes. Et pourtant, cette Allemagne chrétienne, parce qu'il faut le dire, le sud de l'Allemagne est catholique, le nord de l'Allemagne est protestante, enfin est protestant, pardon. Dites donc, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'ils avaient fait de la volonté de Dieu? Et pourtant, il y avait là un déploiement de puissance, de choses extraordinaires qui a stupéfait le monde quelques instants, où le monde a retenu son souffle, pour ensuite sombrer dans l'enfer et dans le sang. Alors je vous dirai ouvertement, retirez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il faut que nous comprenions une fois pour toutes que ce n'est pas aux œuvres que nous devons juger, mais aux fruits. Et tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, chrétiens, faux chrétiens, faux prophètes, tout ce que vous voudrez, tôt ou tard, ça se dévoile. Et ceux qui ont marché, ceux qui ont cru, en sont pour leurs frais. Ça, c'est clair. Et nous en arrivons à la deuxième partie. Jésus dira, c'est pourquoi. Vous avez compris? On a parlé des faux prophètes. Ensuite, on a parlé de ceux qui se couvrent de la religion en disant Seigneur, Seigneur, mais dont le cœur n'est pas changé. Ceux qui vont même invoquer qu'ils ont une puissance, un pouvoir et qu'ils la tiennent de Dieu. Parce qu'on peut mettre Dieu à n'importe quelle sauce, excusez-moi. Dans l'islam radical, on parle de Dieu, mais on tue les gens. Dans toutes les religions de la terre, c'est ainsi. C'est terrible. Ce n'est pas au discours, au sermon, qu'il faut s'arrêter, mais au fruit. Le fruit, c'est un cœur qui a été changé, transformé. C'est pas la violence, c'est vraiment la douceur. Parce que l'agneau dont nous parlions, c'est vraiment Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais des loups, il y en a. Et un loup, il se cache pour saisir sa proie. Eh bien, les faux, ils se cachent pour véritablement circonvenir ou séduire ou jeter la confusion sur celui ou celle qu'il veut prendre au piège. C'est pourquoi nous en arrivons, parce que ça se tient, hein, quand on fait l'analyse du texte, c'est pourquoi, nous dit Jésus, en conséquence de quoi, vous avez entendu ce discours, eh bien maintenant, tenez-en compte. Voilà, c'est pourquoi, quiconque, c'est pas monsieur ou madame un tel, c'est quiconque, le monde entier. Le monde entier est fait de quiconque, c'est moi, c'est vous, c'est celui qui est dehors, c'est ceux qui sont en Chine ou en partout, où là nous sommes confrontés et que nos yeux plongent dans cette parole, quiconque entend ces paroles, que je dis moi, Jésus. C'est pas la parole d'un pasteur, c'est pas la parole d'une autorité religieuse, c'est pas la parole du pape, c'est pas la parole d'un homme, c'est moi, Jésus, je vous dis que quiconque les entend, et ce soir vous avez le privilège de les entendre, vous pourrez pas dire que vous l'avez pas entendu. À moins que vous soyez venu avec des boules quies, mais c'est quand même déconseillé de venir à une réunion avec des boules quies. Mais toujours est-il, ce que je dis, et qu'il ne les met pas en pratique. Je sais, mais je ne le vis pas. Je sais, je l'ai entendu, mais je ne veux pas le croire, et je ne veux pas, finalement, eh bien, que ça atteigne ma liberté. On pourrait peut-être dire ça. Et ne les met pas en pratique. Je vais faire une petite digression, c'est que je suis en train de prendre le contraire de ce qu'il faudrait. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique, vous avez compris ? J'étais parti un petit peu plus loin. Quiconque, les paroles que je dis et les met en pratique, c'est le côté positif, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est-à-dire que ce que j'entends, ce que je sais, ce que j'ai compris, il y a toute une procédure. Alors à ce moment-là, je peux les rejeter, elles me servent à rien, elles m'embarrassent, et je n'en tiens aucun compte. Mais par contre, il y a l'homme sage et prudent qui se dit ce que j'ai entendu là, ou ce que j'ai lu dans ma Bible ce matin. Mais c'est quand même des choses qui sont pertinentes. Ce sont des choses qui sont vraies, parce que il y a toujours dans l'âme de quiconque, de n'importe quel homme, quand même un sens de conscience. Le bien, le mal, le vrai, le faux, la lumière, les ténèbres, l'erreur et la fausseté, par exemple. Alors, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, du rocher, il y en a par ici. Je peux vous encourager à prendre une pioche et puis d'aller sur le... Oh, vous n'avez pas besoin de prendre un permis de construire. Personne s'y met, vous avez toute la place. Hein. Alors, vous pouvez creuser et vous allez voir que vous allez mouiller votre chemise, admettons. Hein. Et vous dites, je veux mettre ma maison ici, sur un éperon rocheux. Ce sera formidable. J'aurai une vue sur la mer en permanence. Et vous aurez même l'eau à volonté quand il y aura du gros temps. Il suffit d'ouvrir les fenêtres, d'accord ? Oui, c'est l'eau courante, ça. Alors, il sera semblable à un homme prudent, un homme sage, quelqu'un de conséquent, quelqu'un qui va retenir, qui va entendre et qui va dire « Mais c'est formidable une chose pareille. Moi, je veux être cet homme. Moi, je veux être cette femme. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur quelque chose de solide. » Et qu'est-ce qui se passe quand on bâtit sur quelque chose de solide ? Eh bien, ça ne bouge pas. On peut bâtir sur de la glaise, ça va s'effondrer. On bâtit sur du roc, on a fait des fondations, on a fait un sondage, et à ce moment-là, on se dit, ça ne va pas s'écrouler. J'ai eu souvent à entendre des gens me dire, nous avons fait construire une maison, et après 5 ans ou 10 ans, elle se fissure partout, la maison. C'est qu'il n'y avait pas eu fait d'études. Moi, j'ai eu un ami, 10 ans après, sa maison, elle était toute lézardée, puis elle valait plus rien. Vous comprenez, parce que qui veut acheter ça, hein ? Ouais, elle était toute fissurée dans tous les sens parce que le sol, c'était dans des vignobles, le sol avait complètement bougé. C'est terrible hein, d'avoir travaillé toute une vie puis de s'apercevoir que finalement votre maison, ouais, elle est complètement voilà. C'est solide. Alors bien sûr, bâtir sur du roc, c'est dur. Il va falloir faire finalement, eh bien là, des fondations pénibles, difficiles. Mais une fois que la maison sera assise dessus, qu'elle sera bien incrustée, elle ne bougera pas comme il nous est dit, parce que Jésus va donner maintenant les résultats. Le fruit en quelque sorte. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont jetés contre cette maison, et elle n'est pas tombée. Pourquoi ? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Eh bien, c'est l'histoire de la vie des hommes, ça. Une maison, la vie d'un homme. Une maison, une vie qui est fondée sur Jésus. Dans la Bible, il nous est dit que Jésus est le roc. Il est le rocher des siècles. Oui, c'est ce qui est écrit, on en trouve plusieurs exemples dans la Bible. Alors, quelqu'un qui entend l'appel de Jésus, parce qu'il a un souci de vérité, un souci de vie, parce qu'on veut tous sauver notre vie, on veut tous que notre vie se perpétue, et c'est toujours dans l'homme ça, hein. Réminiscence peut-être du jardin d'Éden, mais toujours est-il que nous nous fondons sur Jésus, sur ses paroles, eh bien, on sait sur qui nous allons, avec qui nous allons avancer et sur qui nous allons nous reposer. Jésus, à travers les siècles, ne bouge pas. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit que Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce qui fait qu'un chrétien qui croit en Jésus est un chrétien qui va finalement, eh bien là, affermir sa vie. C'est pas un coup de baguette magique, mais il va affermir sa vie parce qu'il est sur du solide. Et quand vous construisez sur du solide, ça tient la pluie. C'est l'image des épreuves. Le torrent qui jaillit, c'est l'image de la dévastation qui vient et des drames qui viennent sur une existence. Et les vents qui secouent de droite et de gauche, c'est tous les tourbillons, tous les tumultes de l'existence. Eh bien, quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus, il aura comme tout à chacun de tout le reste des hommes, il aura comme la même chose. Mais à travers les épreuves, les tribulations, à travers les tourbillons de son existence, à travers les drames, à travers toutes sortes de choses, il gardera la foi. Il ne va pas bouger. Il pleurera. Il connaîtra peut-être les moments difficiles. Mais comme nous le dit si souvent le livre des psaumes, le Seigneur, eh bien, délivre ceux qui espèrent en lui. Et ça, c'est la différence. C'est ça ce qui est extraordinaire. Les épreuves, il y en a. Mais il faut savoir si on veut y vivre tout seul ou si on veut que quelqu'un soit avec nous pour nous soutenir. Quelqu'un qui est dans le ciel et qui est du haut des cieux est capable finalement de nous faire passer tous les orages et tous les tonnerres. Et de garder le cap, de garder la foi, de ne pas s'effondrer et s'écrouler. Vous savez, s'il y a tant de misère dans notre monde, aujourd'hui un monde qui est fragilisé, un monde qui bouge, qui est comme du sable, mouvant en quelque sorte, où les gens en arrivent peut-être quelquefois à désespérer de leur existence devant tant de problèmes, tant d'échecs, tant de déceptions, tant de trahisons. Ils se disent, c'est plus la peine de vivre, hein. Maintenant c'est fini pour moi. Hein. C'est pas seulement des hommes, mais c'est aussi des jeunes qui en arrivent là. À cette extrémité, le manque d'amour, le rejet, l'humiliation. Mais quand on est fondé sur Jésus, il y a un espoir qui est au-delà de l'espoir de la terre. Ouais. Le Seigneur est là, il nous tient. Nous sommes, à travers vents et marées, soutenus parce que nous ne marchons plus tout seuls. Nous avons mis notre confiance en Jésus et lui ne nous décevra jamais. Et si nous avons besoin, quelquefois, dans les moments nuageux, voire ténébreux de notre vie, eh bien, prenons sa parole, lisons les psaumes. Vous allez voir qu'il y a du fortifiant, là. On peut dire ça comme ça. Alors, l'autre cas. Mais quiconque, c'est-à-dire le contraire, mais quiconque entend ces paroles que je dis, je les entends, j'ai du mal à les croire, ou j'ai du mal à les retenir, ou je ne veux pas les retenir parce que c'est quelque chose qui dérange mes petites habitudes, vous comprenez? Et ne les met pas en pratique, c'est-à-dire ne les vit pas, il sera semblable à un homme insensé. Tout à l'heure c'était un prudent et un sage, maintenant c'est un fou et un insensé. Apparemment il n'a pas l'air d'être fou. En apparence. Monsieur X, Madame Z, ils n'ont pas l'air d'être fous, mais ce sont des fous quand même. Parce que finalement, ils misent sur des choses temporaires ou temporelles, des choses passagères, alors qu'ils devraient, comme le premier, mettre leur confiance sur des choses qui demeurent, des choses permanentes, voire même des choses éternelles. Alors, c'est un homme insensé. Il a de la réflexion, mais pas pour les choses morales et spirituelles. Il a bâti sa maison sur le sable. Vous venir avec moi après la réunion? On va prendre chacun un seau, une pelle, et puis on va essayer de faire des châteaux. Voilà, c'est comme les enfants. Même si vous voulez construire une petite cabane, vous allez voir à la prochaine marée, votre petite cabane, elle tiendra pas, parce que c'est sur du sable. Un roc, c'est un conglomérat, c'est une accumulation de particules de sable, mais c'est un tout, c'est indestructible. Hein. Même quand vous tapez dedans, vous pouvez enracher des morceaux, mais voilà. Alors que le sable, c'est la même chose, mais c'est complètement volatile. Hein. C'est y a rien qui tient. On peut faire une boule de sable comme ça, puis vous frottez un peu, tout s'en va. Essayez de frotter avec mes mains, à moins que vous ayez de la toile émerie dans les mains. Mais puis même encore, vous pouvez toujours y aller, hein. Ça va rester compact. Hein. Et ben c'est ça aussi la vie. La vie d'un homme insensé, comme il est dit, qui s'imagine que ça va beaucoup plus vite sur le sable que sur le roc. Parce que quand il faut creuser sur le roc, c'est long. Mais quand on peut faire un trou dans le sable, ça va très vite, hein. Mais ça se referme et tout s'écroule. Et voilà l'image. Il nous est dit la même chose. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vagues. Et les vents ont soufflé. Et ils ont battu cette maison. Vous voyez le mot? Battre. Agression. Comme s'il y avait quelque chose qui nous parle de destruction, de ruine. Elle a battu. Battu cette maison. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Cette maison, elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Celui qui l'avait construit précipitamment parce que ça ne lui coûtait pas trop cher de construire et rapidement sur le sable, ben il en a eu pour son argent. Quoi? La déception. Une grande déception. Lui qui pensait finalement finir sa vie dans ce paysage du bord de mer, oui, ben il n'y a plus rien du tout. Il n'y a rien du tout. On a bien compris ça aussi, hein. Les deux choix de vie. Si je construis avec Jésus, si je donne ma vie à Jésus, si je réponds à son appel, si je lui donne mon cœur et que je lui demande d'être le Seigneur de ma vie, ça sera du solide. Et là, épreuve, tempête, ouragan, tsunami, il est là et je ne bougerai pas parce que c'est lui qui va me tenir. Par contre, si je dis, bien voilà, ça va bien aller comme ça, je fais ma petite maisonnette sur le sable, eh bien... Vous savez ce qui se passe? Faut pas être très intelligent, excusez-moi, mais hein, c'est pour ça qu'il est dit que cet homme était fou, il était insensé, pour savoir qu'à la première vague, ou au premier coup de vent qui va passer sur la plage, ou sur le sable, alors à ce moment-là, tout va être balayé, c'est normal. Et c'est le choix qui nous est donné les uns et les autres. Soit je vais construire sur du solide, donc sur Jésus, ou alors je vais construire sur des illusions, des philosophies, des idéologies humaines qui s'écroulent les unes après les autres. Regardez à travers tous les siècles, même dans ces derniers siècles. Certains ont dit, eh bien, c'est dans le collectivisme que l'homme va se développer, il va construire un monde nouveau. Aujourd'hui, du collectivisme, tout est tombé par terre, hein. D'autres ont dit, c'est sur le capitalisme. Oh oui, il y a que ça. L'argent. Il y a que ça. Comme l'argent n'a pas d'odeur, hein, quelquefois, on ne fait pas la différence, hein. Alors, eh bien, aujourd'hui, on voit la faillite de ce monde qui ne pense qu'à l'argent, où les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches sont de plus en plus riches, où il y a de plus en plus une séparation. Ah, les vents ont soufflé hein, ces derniers temps, et on n'a peut-être pas encore vu le reste. C'est peut-être pas fini, c'est le sable tout cela. L'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et il est la racine de tous les maux, nous dit la Bible. Alors attention, on a besoin d'argent naturellement, mais si nous en faisons notre Dieu, on risque d'être déçus. Vous savez, notre argent, votre argent, ça intéresse tout le monde, hein, d'accord? Ben, cachez-le, hein, parce qu'autrement, vous allez avoir certainement des courants d'air. Et là, il ne restera plus rien du tout. Je vous dirais que les billets, ça s'envole encore plus facilement que les pièces. Donc, attention. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, de son message, de ses paroles. Les gens disaient, mais on n'a jamais entendu une chose pareille. Peut-être que la première fois que nous sommes venus dans une église évangélique, on s'est dit, mais c'est bizarre. Moi, quand j'étais dans ma religion, on m'a jamais parlé comme ça. On m'a jamais dit les choses comme ça. On me parlait de Marie, on me parlait des saints, on me parlait de toutes sortes de choses. Mais écoutez, Toute religion qui se veut chrétienne parle de Jésus, hein. Or, on s'aperçoit que de plus en plus, on parle de moins en moins de Jésus. On parle de moins en moins de Jésus dans sa personne, mais on ne rapporte pas ce que lui a dit. C'est-à-dire l'évangile, tout simplement. Et les gens se disaient, mais pourtant, c'est ce fils de charpentier qui est né à Nazareth. Comment se fait-il qu'il sait tout ça? Comment se fait-il que ce paysan des collines de Galilée, il attire des gens autour de lui? Ah oui, mais Jésus avait quelque chose. Il était détenteur d'un trésor à partager avec tous les hommes qui voulaient l'écouter et l'entendre. Et Jésus disait en substance, choisissez votre vie, construisez sur du solide et vous vivrez. Si vous construisez sur du sable, c'est un mirage. Vous courez, vous épuiserez et vous n'atteindrez jamais le but que vous êtes assigné. Alors il enseignait avec une force, il enseignait comme ayant autorité, une autorité qui n'était pas du blablabla religieux, qui n'était pas des discours et des sermons, tu fais ci, tu fais pas ça, etc., etc. Ça, ils en avaient par-dessus la tête. Comme il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de la religion parce que finalement, ils n'entendent que ça. Fais pas ci, fais pas ça, ceci, etc. Ça ne rime à rien, tout ça. Les gens n'en veulent pas, tout ça. Parce que l'évangile, c'est pas du moralisme. L'évangile, c'est une puissance de vie qui transforme les gens. Alors, il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs prêtres, les scribes et tout le reste. Alors, on a compris, je vais m'arrêter maintenant. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume de Dieu. Vous direz « Mais nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles. » Jésus dit « Non, moi je vous connais pas. Parce que finalement, l'essentiel, si vous voulez vous servir de mon nom, si vous voulez porter mon nom, Christ, à donner chrétien, alors à ce moment-là, si vous dites que vous êtes chrétien, c'est l'intérieur de votre vie. Et pour que l'intérieur de votre vie se révèle comme quelque chose de bon à la gloire de Dieu et selon la volonté de Dieu, eh bien, choisissez si c'est le sable ou le roc que vous voulez. Si c'est le sable, il restera rien. Si c'est le roc, eh bien, non seulement vous allez traverser cette vie avec, c'est vrai, le commun et le lot commun de difficultés et de problèmes de tous les hommes, mais vous serez vainqueur sur le mal et vous serez vainqueur sur vous-même et vous aurez tout simplement le salut de Dieu, la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. C'est un choix à chacun. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour cette parole parce qu'elle est pertinente, parce que nous savons qu'après des siècles et des siècles de christianisme, cette parole est encore dans notre monde. La Bible est encore le premier livre au monde. Nous croyons que le message de l'Évangile est pour les hommes d'aujourd'hui. Comme ceux d'hier, peut-être encore plus aujourd'hui, où véritablement, Seigneur, les principes s'en vont. Les fondamentaux moraux disparaissent. À travers, Père éternel, les repères n'ont plus lieu aujourd'hui. Alors nous savons que tout ça, c'est devenu du sable. Mais nous savons, Seigneur, que ta parole reste le rocher. Elle reste, en effet, l'autorité de Dieu exprimée pour les hommes, pour les bénir et les sauver. Seigneur, dans le nom de Jésus, ce soir, moi je prends la décision de te donner ma vie, de te donner mon cœur. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mon ignorance. Je te demande, Seigneur, que tu me donnes vraiment beaucoup plus de foi pour m'attacher à la personne de Jésus. Et ainsi, je sais très bien, Seigneur, que de là découlera une nouvelle naissance, une vie nouvelle qui portera du fruit, non pas des fruits honteux, mais des fruits glorieux. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.